Je voudrais exprimer ma reconnaissance à Dieu pour le privilège que j'ai d'être ici et que je peux rencontrer ici des pèlerins qui, ce matin, dans la maison du frère, sont réunis et que nous pouvons avoir communion les uns avec les autres. Cela me rappelle la première église qui allait de maison en maison et se réunissait. Et ils ont rompu le pain, et cela dans la simplicité de leur cœur. Ça, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons, dans la simplicité du, être dans la simplicité du cœur pour un seul objectif. La première église voulait atteindre un seul but. C'était voir le plan de Dieu se réaliser dans leur vie et maintenant dans notre vie s'accomplir. Peut-être que ça fait plus de 1000 ans d'ici, mais Dieu, avant même la fondation du monde, dans sa sagesse infinie, a su que nous serions ici rassemblés aujourd'hui dans ce désert. Nous avons des amis rencontrés, des amis qui sont venus de Tucson, la famille Trika. Leur voiture s'est abîmée et ils nous ont appelés. Ils sont avec leurs enfants en chemin. Ils seraient déjà arrivés, mais ils pourront arriver que plus tard, après que la voiture aurait été réparée. Je suis reconnaissant d'être ici, donc dépanné. Le frère Ousanstein est ici. Nous ne nous connaissons pas très bien l'un l'autre, mais nous sommes des frères en Christ. Et nous avions eu déjà communion les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Pour la première fois, nous nous étions rencontrés, je crois, à Phoenix. Et sa femme aussi, si elle était ici, je ne la connaîtrais même pas. Vous voyez, nous nous connaissons seulement comme ça. Donc, j'ai rencontré le frère à la porte. Il m'a souhaité la bienvenue alors que je rentrais. Je suis reconnaissant ce matin d'être ici. Bon, pensez à cela. J'avais eu le privilège de parler où beaucoup étaient présents, des milliers de personnes étaient rassemblées. Et pourtant, je dois dire que ma mémoire, d'une manière particulière, reste fixée plutôt dans de telles petites réunions comme nous l'avons aujourd'hui. C'est comme si Dieu est plus présent ou bien plus proche ou bien peut faire plus parmi nous quand nous sommes réunis en tant qu'un petit troupeau. Cela semble être très proche de nous. Il est aussi écrit, là où deux ou bien trois sont réunis en mon nom, là je suis parmi eux. Bon, hier soir, c'était presque minuit, nous étions dans un foyer rassemblé où un homme et une femme, donc dans une famille donc rassemblée, où une femme, un homme, donc un mari et sa fille étaient rassemblés. Nous étions seulement peu, et la fille était en train de perdre le sens, et nous étions dans la pièce, et des choses ont été dites là-bas qu'on ne peut pas répéter ici, mais la lumière est entrée dans la pièce. L'ange de l'Éternel vint là-bas, descendit où nous étions rassemblés. Vous voyez, Dieu accomplit, fait ce qu'il a promis, ce qu'il promet. C'était une famille très connue, et là-bas il y a un jeune homme qui est tombé malade. Il avait donc les oreillons, et particulièrement quand c'est un garçon ou bien un homme qui le reçoit, c'est très difficile, c'est très dangereux, difficile. Et pendant 2 semaines, il avait la haute fièvre et les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils lui ont donné de la Nivacine, ils lui ont donné des vaccins, etc. Cela semblait ne pas produire d'effet, montrer d'effet. Et ensuite, en un seul moment, passé devant Dieu, tout a été passé, il s'est levé et il était guéri de l'oreillon, des oreillons. Vous voyez, ça montre que que la personne principale, c'est Christ. C'est autour de lui que nous sommes aujourd'hui rassemblés dans cette maison pendant ce sabbat pour le servir. J'ai fixé les regards vers cette date pour rencontrer ici le frère tous les frères et les sœurs ici. J'ai reçu la dîme que le frère m'a envoyée et cela je l'estime beaucoup. Comment est-ce que c'est précieux? Car je l'estime comme un trésor, car je sais qu'un jour je vais devoir rendre compte de ce que j'ai fait avec la dîme. Donc je l'estime beaucoup et je voudrais vous remercier pour la fidélité que vous, personnes ici, vous avez et vous donnez la dîme, même si vous venez vous rassembler seulement dans les maisons, mais vous m'envoyez malgré tout vos dîmes, quoi que vous n'ayez pas d'assemblée locale. Mais je suis reconnaissant et j'ai une responsabilité pour le ministère et je veux être un bon gérant du Seigneur. Et un jour, je vais devoir rendre compte pour tout ce qui a été fait sur terre. Je vais devoir rendre compte et nous allons devoir rendre compte tous. Donc, nous sommes ici pas entrés en contact avec la circulation. Nous sommes loin ici dans ce désert de la civilisation. Je ne sais même pas comment est-ce que je dois le dire et l'exprimer. J'espère que nous avons ici un réveil, car alors, ce n'est pas seulement qu'on vient et qu'on dit ou bien qu'on pose la question, comment vas-tu, que Dieu te bénisse, et ensuite qu'on repart, mais que nous puissions nous rassembler d'une manière que nous nous serrons les mains les uns les autres, et que ce n'est pas seulement que comme ça après nous partons, mais que je pense, n'est-ce pas, à ce jour où nous serons rassemblés et où nous aurons plus besoin de nous séparer, de nous quitter. Ici, nous avons seulement quelques heures ensemble dans lesquelles nous nous rassemblons. Mais là-bas, nous allons être ensemble pendant des millions d'années, parler ensemble. Et après cela, nous n'aurions pas moins de temps que nous avions auparavant, car l'éternité n'a pas de fin. Vous voyez, mais ici, nous sommes comme ça ensemble pour un peu de temps. Mais quand nous passerons par les portails de la gloire dans le paradis, les anges, nous allons les entendre chanter, etc. Nous sommes encore dans la bataille et nous devons vaincre les choses du monde. Mais là-bas, il n'y aura plus de bataille et de combat. La dernière prière aura trouvé sa fin et là-bas, il n'y aura plus personne qui aura besoin d'être sauvé ou bien d'être guéri. Mais il n'y aura qu'une seule grande gloire. Oh, qu'est-ce que, en tant que personne, en tant qu'humain, quelque chose de plus grand aurait pu nous être promis que d'être là-bas dans la gloire. Nous fixons nos regards déjà vers ce moment. Oh, je vois qu'il y a des mères ici et qui éduquent leurs enfants, qui les élèvent. Ensuite vient la scolarité et ensuite le moyen âge. Et ensuite, ils vont aussi vers la fin de leur vie. Mais hier, il y avait déjà quelqu'un qui était dans les bras de sa mère. Et déjà, dans quelques jours, ils sont déjà à l'école. Et après, le temps de la jeunesse arrive. Vous voyez, c'est comme ça. D'une manière qu'on ne peut même pas comme ça le voir. Le déroulement de la vie est très rapide. C'est comme ça que le psalmiste le disait, n'est-ce pas? Comme une fleur qui fleurit et après se fane. C'est comme ça. Nous venons et nous partons. Mais le temps qui nous est donné, nous devons le racheter, l'utiliser. Et nous voulons nous adresser au Seigneur et courber nos têtes pour la prière. Si quelqu'un est ici qui souhaiterait qu'on prie pour lui, que ce soit pour des raisons de maladie ou bien de problèmes, laissez-le savoir à Dieu dans vos cœurs et dites: Seigneur, ceci ou cela, Et je te le demande maintenant, que ce soit aussi des requêtes pour quelqu'un d'autre. Donc, pour que je puisse aussi le savoir, s'il vous plaît, levez vos mains. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre par ta parole, nous sommes ici ce matin, aujourd'hui, rassemblés pour parler de ta parole et pour parler du grand qui est la parole. Nous te remercions pour ce grand privilège que nous avons d'être ici, venus dans ce désert, de pouvoir être venus ici. Et c'était comme autrefois, c'était dans un buisson ardent que l'attention d'un prophète qui passait a été attirée sur un buisson ardent et sur ce qui se passait. C'est ainsi que il a été mandaté et ordonné et envoyé pour délivrer le peuple de Dieu qui était dans la servitude et dans l'oppression. Ô grand Dieu, que tu puisses venir dans ce désert. Nous savons que tu n'es pas dans une grande cathédrale. Tu es dans le monde entier et tu es partout. Mais il n'y a pas un endroit qui serait plus trop petit pour toi. Ça n'a pas d'importance comme éparpillé pourrait être ton peuple dans le monde entier. Tu es partout présent. C'est pour cette raison que nous voulons te remercier. Nous te remercions pour notre frère et pour le troupeau, pour le courage et la fidélité qu'ils ont prouvé en face de Dieu. Nous te demandons maintenant ta bénédiction pour eux. Que tant qu'il y a un désir dans leur cœur, tourné vers Christ, qu'un messager quelque part soit qui apporte le message au cœur affamé. Nous te prions, Père Céleste, pour les problèmes que ces personnes pourraient avoir, qui ont levé leurs mains. Toi, tu le sais. Tu sais ce qui est dans leur cœur. Que ce soit maladie, que toi qui en un seul moment a guéri Beren Sheret, alors qu'il était allongé là-bas, entre la vie et la mort, où la médecine ne pouvait rien produire comme effet, mais une simple prière a subitement stoppé la fièvre. Tu es Jéhovah Dieu, tu es bien représenté et tu es ici dans ce désert tel que tu étais autrefois du temps de Moïse alors qu'il était dans le désert. Je te remercie car je sais que tu exauces les prières. Nous venons humblement et sincèrement car nous savons que ce serait en vain de prier des choses que nous représentons seulement. Nous voulons être sincères à mort et croire et savoir que c'est la volonté de Dieu ce que nous demandons, que c'est sa volonté de nous l'accorder. Nous avons reçu la clarté dans notre cœur que ce que nous demandons, c'est ta volonté et que c'est ta volonté de nous l'accorder. Guéris chaque malade, sauve tous ceux qui sont perdus et que quelque chose soit dit et soit fait qui pourrait les aider là où ils se trouvent, aussi ceux qui se tiennent debout ou bien quoi que ce soit. Que tu puisses venir dans leur cœur et une fois pour toutes le régler. Bénis le frère qui a mis sa maison à notre disposition. Nous aimons la communion les uns avec les autres. Mais nous savons que c'est toi, c'est vers toi, c'est à toi que nous tournons tous nos désirs. Nous voulons nous adresser à toi. C'est peut-être la raison que nous sommes ici rassemblés pour trouver grâce devant toi. Sois maintenant avec nous. Ouvre nos cœurs. Et sois sur le trône de notre cœur, assis. Et réponds aux difficultés de ton peuple. Nous t'exprimons notre amour. Que tu puisses aussi nous l'exprimer Seigneur, dans le nom de Jésus, amen. Bon, si quelqu'un de ceux qui sont debout veulent s'asseoir, il y a encore des chaises vides, ce serait mieux si vous pouvez vous asseoir ici. Bon, il y a des temps, et particulièrement ceux dans lesquels nous vivons, sont importants, très importants. Et je pensais à ce que je devrais dire et quand je viendrai ici. Qu'est-ce que je dois dire dans cette réunion de prière? Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Et c'est ainsi que je me suis noté plusieurs versets bibliques pour ce matin que je vais donc lire ou bien alors auxquels je vais faire référence. Que Dieu puisse ouvrir l'intelligence. Car pensez à cela, si vous n'êtes pas encore croyant, et que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, Christ, la grande chose serait de maintenant le recevoir, l'accepter. Si il frappe à la porte de votre cœur, ouvrez-lui, acceptez-le, recevez-le. Et c'est peut-être raison que nous sommes ce matin ici rassemblés pour vous montrer que la porte est encore ouverte. Bon, je voudrais aller dans l'Apocalypse, le chapitre 15, lire, et c'est-à-dire les premiers quatre versets d'Apocalypse, chapitre 15. Puis je vis, donc Apocalypse 15, les premiers quatre versets, le premier verset. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Je voudrais ici appeler cela un jour de victoire. Ces personnes ici qui sont décrites ont vaincu. Et je crois que dans la langue anglaise, le mot victoire est un mot particulier. Vous avez vaincu l'adversaire, surmonté l'adversaire, vous avez reçu la victoire et maintenant vous possédez la victoire. Et des cantiques sont chantés, la joie est partout quand une victoire a été acquise. Et ici, nous voyons ces personnes-là rassemblées sur la mer de verre. Ils ont vaincu, n'est-ce pas comme il est écrit ici, sur la bête, son image et le nom de son nom. Ainsi, ils ont reçu la victoire et ils étaient là-bas sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu sur la mer de verre. Et ils ont chanté le cantique de l'agneau et ils ont loué Dieu. Bon, on parle donc sur la mer de verre mêlée de feu. On parle de victoire, on parle de jour de victoire. Et cela, n'est-ce pas, nous procure cette pensée-là, un jour de guerre. Et vous savez que dans les dernières années, nous avions eu des jours où des victoires ont été acquises, c'est-à-dire la victoire sur l'adversaire. C'est mal. de ce que nous devons penser à cela, mais le monde ou bien la terre, n'est-ce pas, est plein de sang depuis le sang du juste Abel qui a été versé. Donc, le premier sang de juste qui a été versé, c'était le sang d'Abel. La terre est abreuvée de sang. Et c'est ainsi, il était en ordre avec Dieu. Dieu avait agréé, reçu son sacrifice pour expier ses péchés. Mais son frère, jaloux, qui était jaloux en face de lui, a frappé le juste Abel. Et c'est ainsi que la même raison a toujours été la cause. Quand le sang humain a été versé, c'était toujours la jalousie. Et c'est ainsi que la terre a été abreuvée de sang, du sang humain. Il y a une raison pour cela. Et si ce sang humain est versé, alors nous constatons que la première raison était la jalousie. Caïn était jaloux à cause d'Abel parce que Dieu avait agréé son sacrifice. Et Hébreux 11 nous dit que Abel avait apporté un sacrifice agréable à Dieu et que Dieu lui-même a rendu témoignage à cela, de cela. Donc, mais nous voyons que Caïn était jaloux parce que Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel. Abel l'avait fait dans la foi. C'est ainsi que la Bible dit. Et, bon, nous voyons ces deux jeunes, ils essayaient devant Dieu d'être agréables. Ils sont venus, n'est-ce pas, frais du jardin de la vie, sont sortis frais du jardin de la vie, et ils étaient tombés aussi par leurs parents. Et c'est ainsi qu'ils ont été livrés à la mort, comme tous nous le sommes jusque ce matin. Vous voyez, mais ensuite, ils sont arrivés à ce point-là où la vie leur a été représentée devant les yeux. Et Caïn, il avait apporté des fleurs en tant que sacrifice et les fruits de la terre et du jardin. Mais Abel, c'est par une révélation de l'Esprit de Dieu, car ça lui a été révélé que ce n'était pas par des fruits du champ que la mort est venue, mais que c'était par le sang, c'était par la vie. Et c'est ainsi qu'il a sacrifié quelque chose pour prendre la place du pécheur. Et c'était un sacrifice à la place du pécheur pour le péché. Vous voyez, Dieu l'a donc accepté, car il n'y a pas un autre fondement. Comment est-ce que nous pourrons être agréables à Dieu? Il y a seulement la chose unique. Il faut que le sang d'un innocent coule. Vous voyez? D'un innocent. Et nous poserions aujourd'hui la question, qu'est-ce qui doit donc se passer pour nous? Vous voyez, est-ce que c'est une grande cathédrale où Dieu pourrait rencontrer les hommes, ou bien est-ce qu'il nous rencontrera ici dans le désert? Vous voyez, Dieu, lui, il vient là où le fondement du sang versé est placé. Ça n'a pas d'importance si riche, si pauvre, qui nous pourrions être, ou alors quelle sorte de sacrifice nous apportons à Dieu, quelle sorte d'endroit nous lui présentons, nous pouvons lui présenter. Nous venons sur le fondement du sang versé de Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous. Comme il est écrit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, pourquoi tant de sang a été versé? Vous savez que Dieu a invité les hommes à venir à lui, mais l'homme veut toujours regarder à ce qu'il fait lui-même. et pas à ce que Dieu a préparé pour lui. L'homme veut choisir son propre chemin et pas choisir ce que Dieu lui montre. Donc, nous voyons et nous savons comment est-ce que les choses sont. Quand, par exemple, quelqu'un de quelconque peut montrer quelque chose ou bien veut montrer quelque chose. Par exemple, quand on dit, regarde maintenant aux montagnes. Alors, vous voulez que je puisse voir quelque chose, n'est-ce pas, qui a attiré votre attention. Ou bien alors, quand vous disiez à quelqu'un, regarde à cet arbre là-bas. Alors, on essaye d'attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Mais Dieu, lui, il veut attirer notre attention sur le sacrifice innocent qu'il a apporté pour nous, donc à notre place. Mais l'homme ne veut pas fixer le regard sur ce que Dieu veut lui montrer. Et c'est ici le problème. Vous voyez, et parfois, on prend même des jumelles et on regarde pour pouvoir voir quelque chose qui est très loin. Donc, il n'y a pas longtemps d'ici, alors que j'étais revenu des montagnes, subitement, il y a quelqu'un qui m'a dit, prends cette jumelle-là et regarde s'il te plaît. Et j'ai vu 3-4 choses devant moi par cette jumelle. Et je savais qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible et qui est faux et qui n'est pas en ordre avec le réglage de la jumelle. Il y avait une antilope et moi j'en ai vu 3 ou même 4. Qu'est-ce que c'était? Il n'y avait seulement qu'une seule antilope, mais même la jumelle était, les vers étaient en ordre et en bon état, mais ce n'était pas seulement bien réglé, c'est tout. Je devais donc régler, jusqu'à que ces 3 choses-là deviennent une seule chose. Vous voyez, c'est comme ça aussi. Car il m'a été dit que là-bas, il y a une antilope, et moi j'en voyais 3. Vous voyez? Le verre n'était pas bien réglé. Je devais le régler jusqu'à que exactement cela soit en accord et avec la réalité et que j'en vois seulement qu'une seule. Dieu ainsi nous a donné la Bible. Et la Bible, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Et elle est notre jumelle. C'est le verre par lequel nous regardons. Si nous voyons 3, 4, 5 différents chemins, et alors ça veut dire que nous n'avons pas bien réglé. Nous devons régler jusqu'à que nous voyons qu'une seule chose qui vient de Dieu, qui est faite par Dieu. Il y en a qui voient aujourd'hui plusieurs choses, plusieurs œuvres, des organisations ici, des églises ici. Il y a quelqu'un qui peut dire, moi je veux faire quelque chose de grand. Nous instruisons nos gens. Ils n'ont pas bien réglé le verre de la jumelle. Dieu veut que nous puissions voir dans ce temps présent qu'une seule chose, c'est-à-dire le sang innocent qui a coulé pour nous. Nous n'avons pas besoin d'organisation. Je ne dis rien contre les organisations, mais ils ont produit tant de dégâts parmi le peuple de Dieu, et ils ont divisé et séparé des frères l'un de l'autre. Vous voyez, nous devons régler les vers jusqu'à que nous voyons Jésus-Christ, le même aujourd'hui. Et les méthodistes, par exemple, bien sûr, ils ont leur réveil. Les baptistes, le réveil des méthodistes ne signifie rien aux baptistes. Ensuite, les autres aussi ont leurs choses. Et vous voyez, nous ne voulons pas voir les choses comme ça. Mais nous devons comprendre que si, par exemple, nous voyons 3 dieux au lieu d'en voir qu'un seul, ça veut dire que vous n'avez pas bien réglé la chose. Car nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur nous tous. Il est le Dieu de toute l'humanité. Il est Dieu et il est intéressé à chaque personne, car c'est lui qui nous a créés. Il aime les enfants. Il aime les vieillards, les vieux, la vieillesse. Il aime que nous soyons noirs, blancs, rouges, jaunes. Ça n'a pas d'importance quelle couleur de peau nous pourrions avoir. Nous lui intéressons. Donc il nous aime pas seulement que Dieu, que les juifs l'intéressent, mais les noirs ou bien qui que nous pourrions être. Toute l'humanité intéresse Dieu. Et nous devons régler la chose jusqu'à que nous voyons ce seul Dieu unique. Et ce seul Dieu-là est donc à notre place. Il a apporté un sacrifice. Donc, ça a été Dieu qui est devenu chair pour porter le péché de l'humanité et nous réconcilier avec lui-même. Vous voyez, Jean disait, voici, ça c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, si quelqu'un peut saisir cela dans la foi, pour lui, le problème du péché, une fois pour toutes, est réglé. Vous devez bien régler, prendre les jumelles de Dieu et bien les régler. Vous voyez, car les hommes regardent de manière charnelle et humaine et ne voient pas les choses spirituelles. Vous voyez, par exemple, quand des personnes regardent, alors ils le font comme Caïn l'a fait. Ils ont devant leurs yeux des choses personnelles. Comment est-ce qu'ils pourront atteindre ceci et cela? Même s'ils ont réussi à mettre Abel de côté, alors ils pourront donc faire leurs propres œuvres, faire leurs choses. C'est comme ça que durant tous les différents âges, les hommes ont essayé d'ôter certaines personnes du chemin, de les mettre de côté, au lieu de les apporter sur le chemin pour les aider. Non, ils ont fait le contraire. Cela, nous ne devrions pas le faire. Nous devrions toujours essayer de rapporter tous dans l'image, à l'image de Jésus-Christ. J'ai eu une interview avec quelqu'un et c'était quelque chose, une jeune fille avait une affaire d'amour, une très jeune dame, à peu près 23 ans, et alors qu'elle avait 12 ans, elle s'était retrouvée dans une assemblée, je crois, à Chicago, et le Saint-Esprit l'a appelée et lui a dit, tu as dans le cœur un problème, et c'est ainsi dit le Seigneur, tu es guérie. Et depuis ce jour-là, elle a été guérie des douleurs de cœur. Mais hier soir, il y a eu encore un autre problème de cœur qu'elle a reçu. Et quelqu'un qu'elle avait soi-disant aimé, donc a marié quelqu'un d'autre, et elle pensait qu'il m'aime encore toujours. Non, vous voyez. Donc, il n'aurait pas marié l'autre fille s'il aimait. Non, mais elle s'est imaginé des choses dans cette histoire, et elle disait, non, je sais, Johnny m'aime toujours encore. Elle vivait dans ce propre monde dans lequel elle s'est donné un piège. Et je lui ai dit, mais écoute-moi. Et le Seigneur m'a montré même une vision de laquelle elle ne savait rien. Et j'ai pu lui dire quelque chose qui s'était passé entre eux. Et ça l'a même choqué. Et je lui ai dit, regarde, à Golgotha, n'essaye pas de boire, etc. Tu es la fille d'un prédicateur. Tu ne vas pas pouvoir comme ça, par la boisson, ôter ce souci. Viens à Golgotha. Regarde, mets ta confiance dans le Seigneur. Vous voyez, nous devons, que nous mourions ou bien que nous vivons, quoi qu'arrive, nous devons regarder à Christ. Et Dieu veut que nous puissions revenir à lui et avoir sa parole devant nos yeux. Et nous devrions seulement voir ce que Dieu veut que nous voyons. Vous voyez? Alors quand des personnes voient autre chose, alors ça les amène à suivre les choses qu'ils voient. Et c'est comme ça qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec les autres. Au lieu de toujours s'accorder selon la parole de Dieu et d'exercer l'amour fraternel, de se comprendre les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, d'avoir communion les uns avec les autres, mutuellement. Sinon, au lieu de le faire, ils sont en train de dégrader l'autre à cause de son instruction peut-être, ou bien à cause de la peau, de la couleur de sa peau, ou bien de tout ce qui se serait peut-être passé. Ils en trouvent une occasion de tout ce qui se serait passé pour dégrader l'autre. Alors, ils ne donnent pas à l'homme intérieur la chance de manifester la nature divine. Donc, si les deux choses ont leur effet en vous en même temps, la chose spirituelle et la chose charnelle, naturelle, alors, ça ne va pas. La chose naturelle va essayer de faire quelque chose à atteindre quelque chose par l'intelligence, par l'intellect. Et au moment où vous voulez le faire, c'est à ce moment-là que vous sortez du domaine spirituel. Vous essayez vous-même de faire quelque chose. Je crois que c'était là-bas, dans la chapelle, j'étais en train de parler de ce que Dieu est tellement grand et il peut se rendre si simple. Nous pensons être grand. Oui, il faut que ce soit ainsi, c'est ainsi que nous le voyons. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça, c'est différent. Vous voyez? Quelqu'un qui est grand peut être grand. Et de nouveau, il revient et il est humble, d'une manière que les gens passent sans le comprendre et sans le reconnaître. Et ils ne savent pas que quelqu'un de grand est parmi eux parce qu'il est tellement simple et humble. Mais nous pouvons, n'est-ce pas? Et ils peuvent même expliquer l'électronique, ils peuvent même aller sur la lune, ils peuvent dominer tout et expliquer tout. Et passent à côté d'un gazon ou bien des fleurs qu'ils peuvent voir et ils ne peuvent pas expliquer d'où vient la vie, où est-ce qu'elle est conservée. Toute la science du monde ne peut pas retrouver la vie qui est dans la tige du gazon. Oui, et en elle, il y a la vie. Et il a été dit que les insensés marchent avec des sabots là où les anges n'osent même pas mettre la pointe des pieds. Oui. Et nous passons comme ça, sans nous arrêter à toutes ces petites choses que Dieu a créées. Vous voyez, nous passons sans le remarquer. Nous observons les étoiles, l'espace, et nous ne pouvons même pas observer et remarquer une petite fleur et comment est-ce que le gazon est fait. On peut être quelque part, par exemple sur une vigne de raisin, etc., sans même constater que Dieu a créé quelque chose ici. Vous voyez, ce n'est pas seulement la cendre d'un volcan qui est devenue visible. Non, Dieu a formé toutes choses, les arbres et tout. Oui, mais qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes pas seulement la cendre, le reste d'un volcan. Nous sommes une création qui est sortie, qui a été manifestée de ça. Et Dieu a introduit en nous la vie éternelle et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes attentifs à ce que Dieu fait lui-même. Mais nous devons donner l'occasion à l'homme intérieur qu'il lui soit révélé, qu'il puisse lui être révélé de quoi il s'agit pour Dieu. Par exemple, notre tempérament qui toujours nous suit et domine, comme c'était le cas avec Caïn. Vous voyez? Et il était en colère parce que Dieu n'avait pas accepté et agréé son sacrifice. Il voulait faire son propre œuvre, sa propre chose. Au lieu de venir à Abel et de dire, « Oh, mon frère, je suis tellement heureux de ce que Dieu a agréé ton sacrifice. Et je suis tellement heureux de ce que par cela, maintenant, nous connaissons le vrai chemin. » Au lieu de faire cela, non, il l'a tué. Vous voyez, aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui la même chose dans les hommes? C'est la même chose. Et c'est de la même manière que les choses sont faites aujourd'hui. Au lieu
d'accepter la partie confirmée par Dieu et de dire oui, amen, c'est cela. Les signes accompagneront ceux qui auront cru. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Caïn ne me verra pas, mais Abel me verra. Vous voyez? C'est la même chose. Mais ensuite, nous nous demandons, mais où est-ce que nous pouvons encore voir Dieu? C'est seulement des doctrines et des interprétations et d'autres choses partout. C'est la jalousie et de la colère comme Caïn l'avait. Et c'est ainsi qu'il a frappé son frère. Il a ôté du chemin. Vous savez ce que je veux dire? C'est comme ça que les problèmes commencent. C'est là le commencement. C'est comme ça que des promesses sont annulées et la communion est détruite et des foyers sont détruits. C'est comme ça que la roue commence à rouler qui mène à la perdition. La communion les uns avec les autres est brisée. C'est comme ça que c'était déjà depuis le commencement dans le jardin d'Éden, parce que Ève a manqué de regarder à la parole de Dieu et elle a plutôt accepté les interprétations et les arguments de l'adversaire. Vous voyez, quand Dieu dit quelque chose, alors déjà tout est réglé. Au lieu de avec sa jumelle, de regarder à la chose divine, elle a vu plusieurs choses. Elle a vu ce que Dieu a dit et ce qui est dit maintenant. Et c'est comme ça que la pensée lui a été procurée. Oui, mais peut-être que lui aussi, il a raison. Non, c'est Dieu qui a raison. Mais peut-être que aussi que celui-là aussi, il a raison. Ouais, elle a vu deux choses. Non, la même chose se passe encore aujourd'hui. Et toujours de nouveau, ça s'est passé. Les gens aujourd'hui ne savent plus. Oui, mais peut-être que ce frère aussi a raison. Non, il n'y a seulement qu'une seule chose. Un seul ainsi dit le Seigneur. Une seule signification à la parole de Dieu. Il n'y a pas des interprétations et des doctrines. Non, la parole de Dieu, les intentions de Dieu, ce que Dieu s'est proposé de faire, les promesses de Dieu, la parole de Dieu révélée, le ainsi dit le Seigneur. Mais Ève, elle a vu plusieurs choses et deux choses. Et elle a fait cette grande erreur. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. De ce que Dieu, dans sa parole, lui, c'est peut-être quelqu'un qui ne permet pas à une femme de prêcher et d'être prédicatrice. Il ne lui est pas permis d'enseigner. Et elle peut le faire, elle peut instruire ses enfants, etc., à la maison. Mais c'est tout. Nous avons eu à parler de cela. Alors que nous étions assis à table et que mon fils Joseph me posait des questions sur les anges. Et il disait, mais papa, comment c'est avec les anges? Il disait, mais Dieu est un homme, mais les anges, ce sont des femmes. Je lui ai dit, mais une telle chose n'existe pas. Et Sarah, ma femme, me disait, mais eux, ils ont les anges ont des robes, ce sont des femmes. J'ai dit, non, ça c'est de la psychologie. Ça, ce sont des images, des photos, des peintures faites par les hommes. Jamais dans la Bible, un ange a été adressé comme au féminin, elle. Mais toujours il. Il n'y a pas un ange qui serait une femme, pas un seul. Non, pas dans la Bible et pas dans l'église du Dieu vivant. Il n'y a aucun messager en tant que messager ange en tant que femme. Cela n'existe pas. Et la Bible dit que Adam d'abord a été créé. Et Adam n'a pas été séduit, mais c'est Ève qui a été séduite et est tombée dans la transgression. Vous voyez, oui, dans les groupes pentecôtistes, vous savez que c'est de là que les choses viennent et grandissent. Et on dit, une femme a le droit de prêcher comme une étincelle. Bien sûr, sans doute, moi-même, je les ai vus, n'est-ce pas, prêcher, et un homme n'aurait pas pu se tenir à côté d'elle. Elles ont prêché d'une manière si puissante. Mais cela ne justifie pas la chose. Il est exactement écrit que si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a personne pour interpréter, que la personne se taise. Alors, vous dites, non, je ne peux pas me taire. Si, vous pouvez vous taire, parce que la parole de Dieu le dit. Vous voyez? Vous n'avez pas, de la manière correcte, réglé la chose. Et c'est là tout le problème. Au lieu de voir tout et d'apporter tout en accord avec la parole de Dieu. Bon, nous constatons que la communion dans les maisons, dans les églises et dans les nations est brisée par la même chose. Les nations ont leur chemin. L'Allemagne veut son chemin. La Russie veut son chemin. L'Amérique veut son chemin. Veut son chemin. C'est l'esprit des nations. Vous le trouvez partout. Partout, il y a un esprit national. Et ils ont différentes façons de faire. Mais c'est ainsi. Quoique étrange. Bon, vous voyez, j'ai été par exemple en Allemagne. Là-bas, vous trouvez un esprit militaire. On marche tout droit. Tout doit être réglé et droit. Et si vous allez en France, vous trouvez un esprit immoral. Les femmes boivent de la liqueur, etc. Et quand vous allez en Finlande, là-bas, vous rencontrez un esprit fidèle. Tous sont sincères. Tout reçu doit être payé. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce qu'il faut travailler Dieu? Il faut que chaque reçu soit payé. Quand vous allez en Amérique, alors vous entendez le grand... Ha, ha, ha. Chacun peut raconter une blague souillée et impure, même à la radio, on est fort. Et si quelqu'un le fait partout, à tel Goldfried, partout à la télévision, à la radio, des blagues. Vous voyez, ça c'est l'esprit américain, l'esprit de blague et de rire. Et ces esprits-là sont jaloux les uns avec les autres. Et c'est ainsi que les guerres viennent, vous voyez. Chaque nation, n'est-ce pas, est contrôlée par Satan et est gouvernée et contrôlée. Il est le Dieu de ce monde. C'est ainsi qu'il a pris Jésus sur la montagne et il lui a montré toutes les richesses de ce monde. Et il lui a dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes de ce monde. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car il savait que dans le règne de 1000 ans, il aura toutes les nations sous sa domination et qu'il les héritera. Et c'est ainsi qu'il n'y aura pas d'autre esprit. Il n'y aura pas un esprit allemand ou bien un esprit norvégien ou bien un esprit américain. Non, pendant le millénium, ce sera un seul esprit. L'esprit de Dieu dans chaque cœur vivant. Un seul fil, une seule nation, un seul peuple et une seule fraternité. Un seul Père et nous sous lui. Vous voyez, nous constatons que quand des personnes le font, alors des gens le font, alors toutes ces choses-là apparaissent. Et tant que Satan est libre, il y aura toujours des guerres et toutes sortes de choses sur cette terre, bien sûr. Et la Bible dit, notre Seigneur l'a exprimé et a dit que vous entendrez parler de guerre et de cris de guerre, etc., etc. Car Satan a la puissance dans les nations. Ici, un esprit national. Là-bas, un esprit national. Et c'est ainsi que même les démons ne se supportent pas les uns les autres. Si, par exemple, vous allez aux Esquimaux, où on a des chiens pour conduire le chariot, n'est-ce pas, la luge, là-bas, il y a un conducteur. Et j'ai vu que ce conducteur-là a un certain nom. Et quand il arrive dans un endroit, il ne laisse pas les chiens ensemble. Il les sépare. Il en attache un là, un l'autre là, un autre là-bas. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu le fais comme ça? Et pourquoi est-ce que tu ne laisses pas ensemble? Il a dit, mais ils sont pleins de mauvais esprits. Et si je les laissais ensemble, ils allaient se mordre et se déchirer. Et vous voyez, ils se combattent les uns contre les autres, avec les autres et parmi les autres. Mais Dieu est l'amour parfait. L'amour parfait. Et c'est ainsi que nous pouvons seulement nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est le fondement. Cela prouve donc quel esprit nous domine. Bon, repartons à Genèse, quoique ils tirent la même chose, mais ils ne se supportent pas les uns les autres. Nous avons des guerres, nous avons des victoires, des combats. Une nation frappe l'autre, et ensuite il est dit, nous les avons vaincus, et ensuite nous avons des amis qui se serrent les mains et ils ont des entretiens ensemble. Et ensuite, il y a un autre qui arrive, un dominateur, un roi. Et déjà, les petits-enfants se combattent encore, des guerres et des cris de guerre. Une nation contre une nation, des guerres ici et là. Et ensuite, il est dit, nous avons vaincu, vous avez perdu. J'ai une fois même entendu une remarque. Dieu a fait l'homme et les hommes ont fait des esclaves. Les hommes n'ont pas été créés par Dieu pour se dominer l'un et l'autre, mais Dieu nous a fait pour que nous soyons des frères. Il n'y a pas de race qui se tiendrait au-dessus de l'autre, qui serait mieux que l'autre, mais tous nous sommes pareils. Nous avons une seule fraternité. Ça n'a pas d'importance qui est l'homme. Pourquoi est-ce que nous devrions nous combattre et nous tuer, nous mettre à mort et nous haïr? Parfois de bonnes nations, mais ensuite ils reçoivent un système et déjà cela commence, quelque chose de mauvais commence et les nations donc se changent et il y a toujours des choses qui se passent. Et les nations ont beaucoup acquis de victoires nationales et ont fêté des victoires nationales. Et tant que Satan les domine, c'est ainsi qu'ils vont continuer à faire des guerres. Beaucoup de grandes victoires ont déjà existé dans l'histoire. Nous pourrions aller au commencement et voir comment et où est-ce que des nations ont dominé sur d'autres nations et ont fêté des victoires, etc. Par exemple, dans la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, alors que la Première Guerre mondiale vint, beaucoup de nations se sont rassemblées là-bas, en Allemagne, en Belgique, etc. Et ont, sous plusieurs drapeaux, combattu. Et je connais ici des frères, au moins 3 ou 4 frères, qui encore peuvent se rappeler de cette époque. J'ai 54 ans maintenant. 54 ans, et à l'époque, j'avais déjà peut-être seulement déjà 9 ans lors de la Première Guerre. Je ne sais plus exactement, mais à l'époque, j'avais 9 ans alors que la Première Guerre avait commencé, la guerre mondiale. Et j'écoutais subitement qu'il y aura la guerre. Mon père était avait autrefois 22 ans et j'entendais que il doit être pris dans la guerre. Donc, nous sommes tous partis avec une charrette à ressort comme on l'avait encore autrefois et il avait rempli la charrette d'haricots et j'avais pris un petit sac d'haricots et je pensais que quand le combat va commencer je vais frapper avec ce sac d'haricots. C'est ainsi que en tant qu'enfant autrefois j'ai pensé et ensuite c'est ainsi que les trompettes ont retenti et l'armée a été rassemblée et il a été dit la guerre a commencé à éclater, etc., etc. Et ensuite, c'est ainsi qu'après, il y a eu une signature, une entente qui a été faite parmi les nations. Seulement quelques années plus tard, déjà de nouveau, il y avait une guerre encore plus chaude qui avait éclaté. Pourquoi guerre? Après qu'il y a eu une entente, il y a eu encore plusieurs années plus tard encore une guerre. Pourquoi? C'est la vengeance et la jalousie parmi les nations. Vous savez, alors que le calife William était parti, il y a eu après lui Adolf Hitler, un Autrichien, qui est venu au pouvoir. Et déjà, les choses ont commencé encore. Vous voyez, des démons contre des démons. Et le combat a commencé. Et c'est ainsi que les innocents dans ces différents pays ont dû souffrir en tant que prochaine chose. De nouveau, il y a quelque chose d'autre qui est venu et encore d'autres guerres. Des plus grandes armes, des plus grandes armes ont été utilisées pour la guerre et des bombes, etc. Et ils ont combattu, ils sont morts, ils ont saigné, ils ont perdu leur vie, ils sont morts de froid, etc. Et ensuite, il y a eu un jour de victoire. Et ça, c'est mon sujet. Le jour de victoire. Un jour dans lequel la victoire a été acquise. Les armées ont vaincu d'autres armées. Le jour de victoire. C'était un jour de guerre qui avait commencé et un jour de la fin de la guerre. Et c'était le jour de la victoire. Le jour de la fin de la guerre, c'est le jour de la victoire. Et c'est ainsi que c'était comme ça avec l'Allemagne et toutes les nations qui étaient alliées avec elle. Tels que quand ils se sont rendus devant les autres, alors qu'est-ce que nous avons fait? Oh, nous avons chanté, nous avons loué et nous avons levé nos mains dans l'air et nous avons tiré des coups de fusil dans l'air et nous avons sifflé, nous avons joué des instruments, nous avons frappé l'un sur l'épaule et l'autre. C'était un jour de victoire. Nous avons reçu la victoire. Oh, nous avons eu la sensation de victoire. Les trompettes se sont fait entendre. Oh, quel temps nous avons eu. Nous avons dit victoire, victoire, victoire. Nous avons vaincu. Nous avons gagné, etc., etc. Il était dit partout et crié partout. Et ensuite, nous voyons que les nations et religieuses et chrétiennes ont été délivrées. Qui, en tant que chrétiens, sont désignés ainsi. Bon, il y avait beaucoup de ces grands jours et qui ont existé, mais vous savez que ce n'est pas seulement de telles guerres qui ont existé, mais le peuple de Dieu, le peuple de la foi de Dieu, le peuple de Dieu dans la foi, ont eu aussi de grandes guerres et des victoires. Pas seulement la partie terrestre avec des jours de victoire, mais des combats scripturaires, selon les Écritures, ont eu lieu. De grands combats, des grandes guerres ont eu lieu contre nos adversaires. Et c'est ainsi que la puissance de l'adversaire, c'est contre elle que nous sommes venus et que nous sommes allés combattre. Et l'Esprit de Dieu a revêtu son peuple de la puissance et nous sommes sortis de la guerre victorieux. Chaque chrétien a chaque jour un nouveau combat à réussir entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas bon, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Comment est-ce que nous devons le faire? Comment je dois me comporter? Est-ce que je dois me prosterner et accepter les choses du monde? Est-ce que nous devons nous rendre à l'esprit de ce monde? Non, non, nous devons continuer à combattre en tant que chrétiens. Car de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ainsi que c'est ainsi dit le Seigneur. La parole a été prononcée et nous ne pouvons pas nous rendre. Nous continuons à combattre. Nous devons demeurer et persévérer dans la position de combat. Ça n'a pas d'importance à tel point l'adversaire est puissant et quelle armure il utilise. Il a utilisé contre nous et tout ce qui se passe avec les organisations. Nous devons régler les choses selon la parole de Dieu jusqu'à que nous voyons le sang de Jésus-Christ et lui en tant que le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reconnaissons et expérimentons et qu'il puisse se manifester en tant que tel. Aujourd'hui, on dit comme tel, on dit il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de baptême de l'Esprit authentique. Comme au commencement, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Non, nous devons revenir à la parole de Dieu authentique, au modèle des Écritures. Nous devons régler toutes choses selon le modèle des Écritures. Et personne ne peut nous ôter du témoignage authentique des Écritures. Nous sommes dans un état de guerre. Et cette guerre, cet état de guerre, durera, restera jusqu'à la fin. Et vous, en tant que croyant, vous êtes comme placé dans une position de guerrier et vous devez conserver cette position. Que ce soit que vous soyez seul ou où est-ce que vous soyez, vous devez vous tenir là où vous êtes et lever très haut le drapeau et par la foi honorer Jésus-Christ par votre vie. Il ne s'agit pas des églises méthodistes ou bien presbytériennes ou bien catholique, ou bien juif, ou bien d'une certaine race, ou bien quoi que ce soit. Il s'agit de Jésus-Christ qui se manifeste. Il est notre vainqueur. Il est notre vainqueur. Il est le général de l'armée. Et nous sommes ceux qui exécutent ses ordres. Il est le général. Par exemple, dans une guerre, quand le commandant dit quelque chose, alors il faut que chaque soldat exécute et obéit. Personne ne peut faire ce qu'il veut en tant que soldat. Mais l'ordre qui est donné doit être exécuté. Car c'est dans l'exécution que est contenu l'objectif de notre position et de la guerre. Vous voyez, nous avons eu beaucoup de combats spirituels. Et notre combat consiste à exécuter les ordres du général. Et c'est ainsi que l'Église, le corps de Jésus-Christ, est passé par beaucoup de difficultés. Je ne parle pas des organisations, mais je parle du corps de Christ. Je parle des véritables croyants qui croient, comme dit les Écritures. Ils ont eu de grands jours de victoire, bien sûr, et ils ont eu des guerres et des cris de guerre. Mais à la fin, la victoire, le combat va aboutir même à l'Armageddon. Mais là, cela apportera la fin. Avant que le règne de 1000 ans commence. Et là, tout sera purifié. Les bombes vont exploser. Et le péché et tout va cesser sur terre. Les volcans vont éclater et la terre sera purifiée pour le grand règne de 1000 ans. Maintenant, il est en train de purifier l'Église qui ensuite habitera sur terre, habitera ici. Oh, donc nous voyons un grand jour de victoire, des grands jours de victoire. Nous avons encore quelques minutes pour encore considérer plusieurs différentes guerres. Nous voulons aller jusqu'à la Genèse. Moïse avait un temps où il a été ravi dans un état de guerre. Car l'Église avait oublié depuis longtemps la victoire. C'est comme ça aussi avec les Églises aujourd'hui. Nous avons depuis trop longtemps oublié que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que Dieu guérit, et qu'il est celui qui guérit, et qu'il rend le malade guéri, et qu'il baptise aujourd'hui encore d'esprit et de feu, et que la promesse de génération en génération reste valable pour tout ce que le Seigneur appelle. C'est ainsi que Israël l'a oublié, et c'est ainsi qu'ils sont devenus des esclaves. Et ensuite, Moïse, d'abord, a eu une conception intellectuelle et il pensait qu'avec la puissance militaire, il pourra faire l'exode. Mais ensuite, dans le désert, cela, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est là qu'il a, de la manière correcte, réglé sa jumelle. Et il n'était pas seulement déterminé à marier cette fille éthiopienne et avoir des enfants et les éduquer et garder le troupeau de son beau-père. Mais, il était déterminé à faire sortir le peuple de Dieu, à délivrer le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, de la servitude, de l'oppression, dans lequel ils étaient. C'était l'objectif de sa naissance. Et vous aussi, vous êtes nés pour quelque chose. Et ce buisson ardent, était aussi là pour un objectif. Moïse était là pour un objectif. Nous sommes là pour un objectif. Pour une raison bien précise, bien sûr. Vous voyez? Et vous pourrez dire, oui, mais tu es une femme et tu ne seras rien. Est-ce que tu ne peux pas donc rendre un témoignage à quelqu'un qui pourrait devenir croyant et par lequel des millions de personnes pourront être conduites à Christ? Vous voyez? Vous savez qui était la femme qui a conduit Maudit à Christ? Elle a lavé son linge à la main et elle a invité quelqu'un à venir à la réunion. Et Wayne Moody est venu à la réunion et il vint à l'hôtel. Il a consacré sa vie au Seigneur et l'homme a conduit un demi-million de personnes à Christ. Une femme qui était là pour laver le linge, mais elle avait un objectif sur terre et elle s'est laissée utiliser par Dieu. Toi aussi, tu es là pour un objectif bien précis. Et un jour, le grand jour de victoire sera manifesté quand la guerre sera passée. Moïse a bien réglé sa jumelle. Il a vu le programme de Dieu pour son temps. Vous voyez, il a eu beaucoup de grands combats. Mais ensuite, c'est allé pour lui aussi au jour de la victoire. Vous voyez? Alors, des signes et des miracles ont été manifestés. Et il a prononcé la parole. Et ce qu'il a prononcé s'accomplissait. Vous voyez? C'est ainsi que nous l'avons aujourd'hui. Nous prononçons la parole sur le malade, sur les malades. Et ils sont guéris. Selon la parole du Seigneur. Parle à cette montagne. Et ne doute pas dans ton cœur. C'est ainsi que cela s'accomplira. C'est ainsi que Jésus le dit, croyez-le, prononcez-le. Et cela doit s'accomplir, si vous croyez. Mais après que Dieu ait accordé tout, cela semble que les chrétiens ne sont pas entièrement donnés à Christ. Et c'est pour cette raison qu'ils expérimentent toutes ces déceptions. Et par ces déceptions-là, malgré tout, la volonté de Dieu se passe. C'est justement le chemin de Dieu. Il vous laisse aller dans le fleuve. Et pour voir ce que vous allez faire. Vous voyez comment est-ce que le peuple d'Israël est passé par la mer Rouge. Et il y avait 2 millions de juifs sans secours, on pourrait dire. Il y avait des femmes et des hommes et des enfants et des mères. Et la mer Rouge se tenait devant eux. Où est-ce qu'ils auraient pu passer et aller? Moïse avait un jour de victoire. Il a prié. Il n'a pas seulement dit, Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Et le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que tu cries à moi? Parle! Et cela s'accomplira. Vous êtes déjà en chemin. Amen. Ne crie pas à moi. Tu as reçu l'ordre de faire passer le peuple, de le délivrer. Prononce, parle et va de l'avant, car vous êtes sur le chemin de votre obligation. Vous êtes dans ma volonté. Oh, quel encouragement pour nous. Pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui sont rétrogrades. Revenez au Seigneur. Et allez sur le chemin qui vous mène au but. Le chemin du Seigneur. Prononcez la parole et allez de l'avant. Vous n'avez rien besoin de faire d'autre. Moïse avait un grand jour de victoire devant la mer. Oh, quel jour pour Moïse et le peuple d'Israël. Comment est-ce que la voix de leur prophète a été obéie par eux, a été entendue d'eux et ils ont obéi. Vous voyez, vous avez déjà vu 10 miracles, il aurait pu dire. Et vous doutez encore toujours. Et il est allé vers la mer avec la verge entre ses mains. Et Dieu a ouvert la mer. Et c'était un jour de victoire. Vous voyez, comme notre texte le dit aujourd'hui, ils se sont tenus là et ils ont chanté le cantique de Moïse. Ils se sont tenus là sur la mer de verre et Moïse ne savait pas ce qu'il devait faire. L'armée de Pharaon était derrière eux. Qu'est-ce qu'ils devaient faire s'ils réfléchissaient humainement? Mais cela était arrivé à ce point où ils ont traversé la mer, Myriam a pris le tambourin et a joué. Et les filles d'Israël ont exalté et ont dansé. Et Moïse a dansé dans l'esprit et chanté. Si ça, ce n'était pas une réunion du Saint-Esprit, alors je n'en ai jamais vu.
Ces Égyptiens que vous regardez aujourd'hui, vous ne les verrez plus de cette manière. Oh, quel jour! C'était passé. Ensuite, vint un autre jour en tant que jour de victoire. Là-bas, devant le fleuve avec Josué, il avait aussi un jour de victoire à Jéricho. D'abord, au fleuve. C'était en avril. Peut-être à peu près quelques kilomètres seulement de cet endroit était le Jourdain. Et partout, ils sont passés comme ça par le bord du fleuve. Et Dieu, lui, il a fait exactement cela au bon moment, à la bonne saison, c'est-à-dire au printemps. Non, vous voyez, Dieu permet parfois que dans notre vie viennent des déceptions pour manifester la victoire, pour manifester des victoires. Quand vous, si vous pouviez seulement voir que les choses qui brûlent et qui vous rendent la vie difficile, ce sont des épreuves. C'est pour voir si vous allez encore pouvoir régler la jumelle devant une situation et l'accorder avec la parole de Dieu et vous comporter selon les Écritures. Parfois, vous arrivez dans des temps et vous dites, Seigneur, je ne sais plus ce que je dois faire. Et ensuite, prononcez la parole et vous allez voir ce qui se passera. Vous arrivez parfois dans de telles saisons. Et nous constatons, n'est-ce pas, que Josué était juste arrivé dans ce temps et il a prié et le Seigneur lui a dit ce qui va se passer. Et le Seigneur lui a donné un jour de victoire. Vous voyez? Et vous savez qu'il a pris l'arche de l'Alliance. Mais d'abord, la parole, le témoignage a été placé dans l'arche. Vous voyez? En tant que première chose, quand Israël allait en guerre, la chorale a chanté devant tout le peuple et les trompettes retentissaient. Et l'arche de l'Alliance était portée par les Lévites. Et ensuite, le combat commençait. Bon, alors que Josué avait pris la parole, il l'a pris et il a mis dans l'arche de l'Alliance. Et Dieu lui a dit, tel que j'étais avec Moïse, c'est ainsi que je serai avec toi. Personne pourra résister devant toi. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Avec un tel ministère, avec un tel ordre, mandat et envoi. Qu'est-ce que Josué pouvait faire d'autre que de mettre la parole de Dieu à la première place dans tout ce qu'il faisait et dans toutes ses entreprises? Si quelqu'un a un ministère, a un ordre reçu du Seigneur, si c'est vraiment du Seigneur qu'il a reçu cet ordre, il mettra en toute chose la parole de Dieu à la première place. C'est ainsi que le jour de victoire viendra. Vous voyez, l'arche de l'Alliance a été portée au fleuve et l'eau s'est divisée. Et ils ont pu traverser. Oh, qu'est-ce qui s'est passé en tant que prochaine chose? Quand ils sont arrivés de l'autre côté du fleuve, là-bas de l'autre côté, ils ont constaté que la ville est entourée de murailles. Mais il a rencontré le général de l'armée. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées. Bon, il aurait pu dire, maintenant, tu m'as fait traverser le fleuve. Et maintenant, voilà, je constate une ville entourée de murailles. Comment est-ce que nous pourrons entrer en possession d'elle? Ils ont des lances, ce sont des guerriers, etc. Mais regardez, Josué a mis Dieu à la première place. Quand Dieu dit, quand Dieu disait, tournez autour de la ville 7 jours, et que le 7e jour, 7 fois, et sonner des trompettes. Alors il a pris Dieu au mot et il a obéi. Et c'est ainsi que les murailles se sont écroulées. Vous voyez? C'est ainsi qu'ils l'ont fait. Oui. Dieu a donné un jour de victoire. Abraham avait un jour de victoire. Il avait une promesse pour l'enfant. Dieu avait éprouvé Abraham dans sa fidélité et dans sa patience. Et nous, nous sommes la descendance, la postérité, la semence d'Abraham. Dieu l'a fait sortir et est allé le chercher du pays des Chaldéens. Et il a traversé tout ce pays. Il est devenu un étranger. Et son jour de victoire principale était là-bas sur la montagne de Moria, alors qu'il devait offrir son fils. Car Dieu avait dit, prends ton fils unique que tu aimes et sacrifie-le-moi. Vous voyez, apporte ton sacrifice pour moi. Lui, le père des nations, lui, il devait sacrifier son fils. Vous voyez, détruit donc tout. Détruit l'objectif que tu devais en fait exécuter. Ici est Abraham. Pendant 25 ans, il a attendu cet enfant. Et maintenant, voilà que l'enfant est à peu près 14 ans, 15 ans. Et voilà, il lui est dit de le sacrifier. Et voilà, le père de nation. Bien sûr, oui. Abraham est à... ne s'est pas éloigné de la conviction qu'il avait. Non, il a dit, Seigneur, je vais. Il a pris le bois, il a pris Isaac, il est allé, il a monté la montagne selon l'ordre du Seigneur. Et il a placé ainsi le Seigneur et sa parole à la première place dans sa vie. Il ne pouvait pas dire, oh, j'ai presque 100 ans, comment est-ce que cela devrait se passer? Non. Il était convaincu que Dieu est capable de lui restituer Isaac à cause de la parole de la promesse qui est sur cet enfant et de le ressusciter même des morts, même s'il meurt. Oh ami, le même Dieu qui nous a fait sortir des choses de ce monde et de l'esprit de ce monde, est-ce qu'il ne peut pas, est-ce qu'il peut pas encore nous accorder encore plus, c'est-à-dire la vie éternelle? Nous regardons toujours aux épreuves et nous pensons, mais qu'est-ce que c'est tout cela? Ce sont seulement des épreuves, ce sont des choses, ce sont des épreuves dans notre vie. Mais après toutes ces épreuves, là viendra le jour de victoire. Vous voyez? C'est ainsi aussi sur terre. C'est comme ça sur terre. J'aime cette idée. Vous voyez? Comme avec un prédicateur qui se réfère d'actes des apôtres. 2, verset 38, et ne lit pas tout exactement. Les organisations ont combattu. Bon. Et vous dites, pourquoi est-ce que vous vous disputez là-dessus? Mais c'est écrit comme ça dans la Bible. Pourquoi est-ce que vous vous disputez sur ces choses? Revenez à ce que la parole de Dieu dit. Ne vous disputez pas là-dessus. Revenez à ce que la parole dit. Et lisez un verset entièrement. Vous voyez, mais si vous n'avez pas exactement réglé votre jumelle, qu'est-ce qui se passera? Abraham lui avait le bon réglage. Dieu lui avait dit, je te ferai devenir le père des nations. Abraham l'a cru, a cru Dieu, et cela était en ordre. Il a fixé ses regards sur ce que Dieu, en tant que ainsi dit le Seigneur, lui avait dit. C'était ainsi dit le Seigneur. Et il marchait nuit et jour, année après année, et il était encore plus fortifié dans la foi, et tout ce qui était contraire à ce que Dieu avait promis n'existait pas pour lui. Les adversaires auraient pu venir, les symptômes, la vieillesse, et tous, ils auraient pu dire, toi, père des nations, mais combien d'enfants tu as maintenant pour pouvoir être père? Bon, mais comment est-ce que tu sais que tu vas les avoir? Dieu l'a dit, et c'est ainsi que ce sera. Vous voyez? Avec cela, pour lui, c'était réglé. Il s'est réglé. Ensuite, Abraham vint. Lui qui était si fidèle. Et plus vous êtes fidèles, et plus difficiles seront les épreuves par lesquelles Dieu permettra que vous passez. Parce qu'il vous, voit digne de supporter une épreuve. Alors s'il vous plaît, ne manquez pas cela. C'est une grâce. Quand vous passez par des épreuves, c'est peut-être raison que c'est la preuve que vous avez trouvé grâce devant Dieu. Parce que dans l'épreuve, vous demeurez fidèle et confiant. Et Dieu sait à l'avance que vous allez réussir le test de l'épreuve. C'est peut-être raison qu'il le permet. Dieu savait aussi avec Job. Dieu savait et avait dit déjà qu'il est un serviteur parfait. Aucun est comme lui. Personne n'est comme lui. Justement, bien sûr. Oh, Satan disait, oui, c'est sûr, il peut te servir, mais laisse-le moi entre les mains. Alors, il te reniera en face. Il te maudira. Il maudira. Et Dieu a dit, il est entre tes mains. Je te le donne. Mais Dieu avait sa confiance en Job. Amen. Vous voyez? Ah, vous voyez? Cela semblait que tout était allé de travers dans la vie de Job. Dieu vous a donné des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il vous fait confiance. Vous n'êtes pas une plante qui a grandi, qui vient d'une serre. C'est local vitré destiné à abriter des plantes. Non, vous avez grandi dans la nature. Alors Dieu peut vous faire confiance. Bien sûr qu'il estimera cela comme joie quand dans toutes ces différentes épreuves là nous entrons. Oui, Dieu vous a donné ces temps d'épreuves pour que vous puissiez apprendre à vaincre. Abraham croyait Dieu. Vous voyez? Bon, sans aucun doute, il avait apporté la preuve qu'il croyait Dieu et qu'il craignait Dieu, et il a pris son propre fils et il a lié parce que Dieu l'avait dit de le faire. Il lui avait dit de le faire. Et Isaac était un peu touché. Il a dit, mais père, ici est le bois et ici est l'autel, mais où est l'agneau qui, en tant que sacrifice, doit être apporté? Quelque part, il a trouvé cela étrange. Vous voyez, et vous pensez, oh, maintenant, la communion parmi les chrétiens n'existe plus, et ceci et cela n'existe plus dans l'église. Cela vous a été ôté. Mais allez de l'avant, vous soyez obéissants à la parole, et tout ira bien. Vous soyez obéissants seulement à la parole. Dieu, il a dit, me voici, je fais. Il a dit, me voici, moi je fais tel que Dieu m'a dit. C'est tout. Il a lié son fils entre les mains, il l'a placé sur l'autel. Isaac n'a pas murmuré, ne s'est pas plaint. C'est un type de Christ patient. Il s'est donné en sacrifice. Et ensuite, c'est ainsi qu'il a voulu lui ôter la vie à son fils. Vous voyez, ça, c'était la foi d'Abraham. Jusqu'à la dernière frontière, il a mis à l'épreuve. Vous voyez, Dieu nous met à l'épreuve. Mais ensuite, le jour de victoire suit. Dieu nous aime, c'est pour cette raison qu'il permet ces épreuves. Bon, jour de victoire. Vous voyez, Abraham avait son jour de victoire sur la montagne de Moria. C'est là-bas que Dieu lui a préparé ce jour de victoire. Vous voyez, l'amour, c'était l'amour. Et Abraham a prouvé en face de Dieu, a prouvé à Dieu qu'il est fidèle, il lui est fidèle. Abraham a prouvé la foi devant Dieu, car il avait presque 100 ans quand il a reçu le fils, et il croyait la promesse. Et si maintenant tu veux avoir cette vie, prends-la, et je sais que tu me la restitueras, tu la ressusciteras des morts. Même un presbytérien ici peut exalter dans l'esprit. Vous voyez, Dieu lui avait donné la promesse. Dieu m'a donné la preuve. Amen. Il me l'a prouvé. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Il me l'a déjà prouvé. Et tel qu'il le fait avec nous, c'est ainsi qu'il le fera encore maintenant. Vous voyez, toi, où est-ce que tu en es? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, ce matin? Est-ce que Dieu ne nous a pas non plus apporté la preuve qu'il est parmi nous? Et il n'y a pas de doute en cela. Nous allons aussi avoir ce jour de victoire. Il n'y a pas de doute en cela. Dieu l'a prouvé déjà. Et il a prouvé aussi à Abraham. Vous voyez, Abraham était un vieil homme. Il était presque mort. Et sa femme avait 65 ans et lui avait 75 ans. Mais Dieu avait dit et promis ces choses. Et pour eux, c'était réglé. Abraham croyait la parole de Dieu. Et Dieu l'a laissé attendre 25 ans. Lui a donné 25 ans d'épreuves. Mais Dieu a accordé à Abraham assez de force. De manière qu'il était plus tard, plus fort qu'auparavant. Oh, Sarah, elle a dit oui, Abraham. Il a dit oui, bien sûr. Bien sûr, maintenant, bien sûr. Ça va s'accomplir. Vous voyez, ils ont toujours attendu. Prenez-le là. Et vous allez voir que tout sera terminé. Mais quand Abraham a essayé d'ôter la vie à son fils, et ensuite la voix se fait entendre, Abraham, Abraham, vous voyez la réponse de Dieu, une telle personne je veux être. Aimer Dieu, ça n'a pas d'importance ce qui se passe. Vous mettez sa parole en pratique, restez avec elle. Quoi qu'il arrive, restez attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu le dit ainsi, c'est ainsi que Dieu a prouvé sa parole. Restez attaché à ce que Dieu dit, quoi que les circonstances pourraient être comme elles veulent. Quoi qu'il arrive, moi je t'aimerai. Et Dieu a dit, je te bénirai et je serai avec toi. Même les adversaires, qu'ils viennent ou pas, ils seront vaincus bien sûr. Parce que nous restons avec la parole de Dieu. Un peu plus tard, nous allons encore venir à parler de cela. Bon. Le doute a été ôté à Abraham. Car il avait la vraie parole de Dieu qu'il avait reçue. Si toi, tu reçois la vraie parole de Dieu, c'est ainsi que le doute va t'abandonner. Moi, je sais que tu me crois, Abraham. Dieu a dit Dieu. Même si la preuve est détruite, tu continues à m'aimer assez, quoi que tu fasses, quoi que je fasse, tu fais ta confiance en moi. Vraiment un jour de victoire que Dieu avait préparé à Abraham. Comme autrefois, son frère avait des mauvaises intentions. Je fais mention de Caïn et d'Abel, mais malgré tout, tout s'est bien passé. Mais maintenant, vous voyez, c'est ainsi aussi avec le diable. Oh, c'est peut-être raison que le diable est toujours derrière nous, à nous poursuivre, derrière l'épouse. Pourquoi? Parce que le jour de victoire s'approche, est très proche. Et cela sera toujours plus grave pour lui. Et la Bible dit, malheur à vous qui êtes sur terre, car le diable est précipité avec pleine colère contre vous. Apocalypse 12, il sait ce qui va se passer. Mais vous restez attachés. Ne n'allez pas ni à droite ni à gauche, mais restez dans la parole de Dieu. N'allez ni à droite ni à gauche à n'importe quelle interprétation, mais restez dans la parole de Dieu. Dieu vous accordera un jour de victoire. Jacob avait un désir dans son cœur. Tout semblait aller de travers. Il voulait une demeure. Il voulait aller à Bethel. Il voulait payer sa dîme, etc. Et ensuite, il a constaté que Ésaü, et son frère était devenu un adversaire pour lui. Et Ésaü l'attendait déjà. Jacob était devenu un lâche. Quoi qu'il avait reçu les bénédictions de Dieu. Et Dieu avait promis de le bénir. Il avait reçu le droit d'aînesse. Amen. Oh, quel type de l'église. Nous avons les promesses de la parole de Dieu. Vous êtes une partie de la parole de Dieu devenue. Vous avez le droit d'aînesse. Jacob avait le droit d'aînesse. Amen. Vous voyez, et son frère, il n'a pas regardé à ce qu'il a ou pas. Et ensuite, il a vendu son droit d'aînesse à son frère pour un plat de lentilles. C'est ainsi que l'église l'a fait aussi. Ils ont vendu le droit d'aînesse. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que aujourd'hui cela nous a été restitué. Nous l'avons. Qu'est-ce que nous pourrions donner pour l'union des églises ou ceci ou cela? Si nous avons seulement le droit d'aînesse, cela nous suffit. Comme Jacob, alors vous avez la vue d'ensemble sur la volonté de Dieu. Jacob devait d'abord combattre. Il est resté toute la nuit. Et il a dit, je ne t'abandonne pas jusqu'à que tu m'aies béni et que tu m'aies accordé la victoire. Et à l'aurore, donc tôt le matin, il a reçu le jour de victoire. Vous voyez, de cette partie, de ce côté, il était plein de crainte et de peur comme un membre d'église. De l'autre côté, il était un sacrificateur qui boite, un homme qui avait combattu avec Dieu. Vous voyez, il avait eu un jour de victoire. Nous n'avons pas besoin d'organisation. Nous n'avons pas besoin de leurs choses. Nous avons besoin, pas du monde. Nous n'avons pas besoin du monde. Nous avons un jour de victoire. Nous avons un jour où nous avons combattu toute la nuit jusqu'à ce que nous ayons eu un réveil. Jusqu'à ce que nous soyons nous-mêmes morts à nous-mêmes, à nos pensées, à notre nature. Nous avons persévéré pendant la nuit, toute la nuit. Et c'est ainsi que Dieu a reçu avec nous, par nous, ce qui lui revient de plein droit. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous n'avons pas besoin d'organisation. Nous avions eu un jour de victoire. Alors nous n'avons plus besoin de ces choses. On dit, tu joues un rôle de saint. Qu'on joue un rôle de saint ou pas, même si pendant toute la nuit, je reste dans la prière comme c'était avec moi. Alors ensuite, vint l'ange de l'Éternel. Et les choses devant lesquelles je voulais me détourner me sont devenues précieuses. Car les prédicateurs me disaient, les visions viennent du diable, etc. Et ensuite vint l'ange. Ça, c'était mon jour de victoire. Un jour de victoire, comme Jacob l'avait eu. Il avait combattu toute la nuit avec Dieu. Ensuite, le jour de victoire a jailli pour lui, a apparu pour lui. Oh, grande victoire. Vous voyez, quand on parle de cela, on ne peut même presque pas le retenir. Oh, nous estimons chaque jour de victoire, chaque combat, chaque bataille qu'est menée dans le domaine spirituel était grande. Vous voyez? Et nous avions eu de grandes victoires qui était passagère. Et vous savez que nous avions eu, par exemple, la guerre avec le Japon. Et vous savez que quelque part, c'était implanté en nous. Et quand ensuite nous avions reçu des choses sur lesquelles il était écrit Made in Japan, donc construit au Japon, alors il y avait quelque chose qui se passait en nous. Vous voyez? Ou bien alors fabriqué au Japon. Donc on voulait acheter des choses venant du Japon pour leur montrer qu'après la guerre, maintenant il y a la paix et que tout est passé. Vous voyez? Et c'était partout dans les magasins. Made in Japan, donc fabriqué au Japon. Ça n'a pas d'importance tout ce qui était lié avec cela. Mais maintenant, quel est l'état de la véritable armée de Dieu? Qu'est-ce qu'il y en a? Nous ne faisons aucun compromis. Que ce soit que nous soyons jetés en prison ou quoi qui pourrait nous arriver, nous ne craignons rien. Nous ne craignons pas de prêcher la vérité de Dieu. Nous avons besoin de plus de jours de victoire. Laissez-vous être surmonté par Dieu vaincu par Dieu, pour qu'il puisse en vous manifester sa puissance de victoire, sa puissance de victoire, sa puissance victorieuse. Beaucoup d'héros ont existé. Ils sont morts. Ils ont perdu leur vie. Dans la guerre, dans la bataille, des héros, ils l'ont été. Oh, j'ai encore toute une liste que je me suis écrite. Daniel et les trois hommes dans le feu ardent. Toujours, c'était des jours de victoire qu'ils avaient reçus. Vous voyez, jusqu'à dans la mort, ils sont restés, demeurés fidèles. Ils moururent, combattaient, mouraient et combattaient, etc., etc. Mais l'homme n'a pas été fait pour mourir, mais a été fait pour vivre. Ça n'a pas d'importance quoi qui pourrait se passer. Si l'homme, quand l'homme est enseveli, alors tout n'est pas fini. Non. Cela semble que la mort l'a englouti. Le grand Moïse, le grand Josué, les grands prophètes de la Bible, nous savons où sont leurs tombes. On les a conservés là-bas. Mais un jour, un grand combat vint. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est après que la Pâque vint. Le véritable jour de victoire. Jésus-Christ avait combattu et avait vaincu tout adversaire, vaincu. Vous voyez, d'abord, déjà depuis sa naissance, on lui a dit qu'il est né en tant qu'un enfant illégitime et qu'il a dû toujours, toute sa vie, combattre. Il lui a été dit, Marie avait l'enfant sans être mariée avec Joseph. Dans son cœur, il savait qu'il était qu'il est le Fils de Dieu. Mais il devait passer par ces épreuves pour combattre ce combat, cette bataille. Et vous voyez, et ensuite, le Saint-Esprit vint sur lui après qu'il fut baptisé. Et le diable l'a éprouvé, l'a mis à l'épreuve, l'a tenté. Et il lui a dit, je te donne toutes ces nations. Ça, c'est ce que l'Antichrist essaie de faire aujourd'hui. Autrefois, il avait son jour de victoire. Et il a dit, si tu es le Fils de Dieu, vous voyez, c'est un défi, presque sur le fondement de la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux le faire. Vous voyez? Mais il fallait que un jour de victoire vienne. La victoire sur la tentation. Vous voyez? Tu peux être quelque chose de grand. Et il l'a transporté encore sur le temple. Et lui a dit, jette-toi ici car il est écrit. Jette-toi en bas car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur tes mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était un jour de victoire. Chaque jour était un jour de victoire. Et quand la belle mère de Pierre était allongée, malade de fièvre, et qu'elle avait, n'est-ce pas, besoin qu'elle soit servie, c'est ainsi qu'il a pris par la main et la maladie ne pouvait plus résister. Sûrement pas. Et ensuite, il vint là où la mort était déjà manifestée dans la famille. Là-bas, il y avait son ami Lazare qui était mort. Déjà, le corps avait pourri. Car après 3 jours, le corps pourri après 3 jours. Le corps se corrompt. Et c'est ainsi que la vie et la mort se séparent. Il était la vie et la mort avait pris son ami. Ici était la décision. Oh, il a redressé ses épaules et il a crié à haute voix, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, ramené à la vie, bien sûr. Bien sûr, il a vaincu. Il a acquis la victoire. Satan, épreuve, tentation, partout, il a combattu. Le Seigneur a combattu. C'est exactement correct. Et ensuite, le monde entier était dans l'obscurité de la mort. Chaque homme, chaque nature humaine, le monde entier, tous sont morts. Là, il y avait Abraham, Isaac et Jacob, Joseph, tous étaient allongés dans les sépulcres. Mais ils croyaient tous que la parole de Dieu l'avait dit ainsi. Et ils attendaient tous. Vous voyez, même Job, sa femme, oui, sa compagne, même sa respiration la dérangeait. Toutes les épreuves, tous les amis, tous ceux qui vinrent, ont voulu lui faire des reproches et l'accuser. Mais lui savait qu'il était en ordre avec Dieu. Et sa femme vint. Elle lui a dit, « Tu es si misérable, maudit Dieu, et renie-le et meurs. » Oh, mais quel héros il était. Jésus a fait mention de lui dans les paroles de l'apôtre Jacques. Avez-vous entendu parler de la patience de Job et de sa fin et de sa persévérance? Vous voyez? Et comment est-ce que cela, les choses ont été pour Isaac, pour Joseph, etc. Et il disait que je puisse être enseveli là-bas auprès de mes pères. Oh, la parole qu'ils ont portée, vous voyez, ils ont mis toute leur confiance en elle. C'est pour cette raison que, au nom de Jésus-Christ, nous voulons être ensevelis par le baptême. Tous ces héros, et ensuite vint le général de l'armée. Et il est allé dans la bataille. Et beaucoup avaient leur jour de victoire. Josué et beaucoup d'autres. Même le soleil, à sa parole, s'est tenu sans bouger. Et c'est ainsi que le soleil est resté 24 heures sans se coucher. Et la Bible dit que jamais cela s'est passé avec un homme qui aurait parlé et Dieu aurait écouté sa parole et que soleil et lune se seraient arrêtés. Sinon, ils auraient été mis à mort. Mais il avait besoin du temps pour exécuter la victoire. Car si la nuit était venue, cela aurait été impossible. Il avait besoin de temps, il avait besoin de lumière. Soleil, tiens-toi tranquille. Arrête-toi. Et cela a eu lieu. Oh Dieu. Dieu a écouté la parole d'un homme et a stoppé la directive, la trajectoire du soleil. Nous avons vu, les adversaires n'avaient pas de temps de s'enfuir, ils ont été vaincus. Nous voyons Josué, il a donné sa vie et il a été porté dans la poussière de la terre. Tous ces grands combattants, Daniel, au milieu de toutes les difficultés, etc. Vous voyez? Et ils se reposent tous après leur vie. Mais la promesse leur a été donnée qu'ils vivront et qu'ils ressusciteront. Jésus a porté et vaincu chaque maladie, chaque péché, la mort, l'enfer, la tombe. Il a vaincu toutes choses. Vous voyez? Et il a ressuscité les morts. Bien sûr, il a prouvé qu'il a la puissance, le pouvoir. Oui, là-bas est la tombe vide. Il est ressuscité. Oh, en ce jour où il mourut, Le soleil s'est obscurci et toute la terre était en mouvement. Les rochers ont éclaté. Il mourut. Il est allé en enfer. Et il a vaincu la mort, l'enfer. Et le matin de Pâques, il est sorti de la tombe. Oh, parlez d'un jour de victoire parfait, réel, entier. Vous voyez, pas seulement cela. Alors qu'il sortit de la tombe, il a même avec lui amené les captifs. Car la Bible dit qu'il a rendu captifs les captifs. Vous voyez, oh, comme c'est merveilleux, comme ça a été merveilleux. Il les a pris avec lui pour sortir. C'est ainsi qu'il a rendu, il a pris captifs les saints. Une victoire entière, parfaite. Les zéros, Abraham, Isaac, Jacob, Job, tous, il les a pris avec lui. Ils étaient rendus captifs là-bas. Mais il a vaincu, il a rendu captif la mort, rendu captif l'enfer. Il a rendu captif le tombeau, le sépulcre. Tout rendu captif et il est ressuscité. Amen. Il est le même. Il est monté dans les cieux et il a donné aux hommes, il a donné un don, des dons aux hommes. Une épée entre les mains, la parole pour qu'ils puissent vaincre. C'est pour cette raison. Pourquoi une épée? C'est pour vaincre. Et pour vaincre quoi? La maladie, le péché, l'incrédulité, tout ce qui est mauvais, pour que chacun, chaque âme vivante qui veut venir à la vie, quelle est la possibilité de le faire? Il a dit, je vis et vous devez aussi vivre. Mais nous devons combattre. Nous voulons combattre le bon combat de la foi jusqu'à que entièrement nous ayons acquis la victoire. Soyez certains, il faut que cela soit ainsi. Nous avons les prémices et la preuve dans notre cœur maintenant, car le premier combat est derrière nous. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons expérimenté un jour de victoire. C'était autrefois à peu près 22 heures alors que je priais. Seigneur, mets-moi à mort ou alors sauve-moi. Ôte-moi la vie ou bien alors sauve-moi. Parmi les baptistes, il disait, sois la bienvenue, etc. Mais je n'étais pas satisfait. Je suis allé dans la prière, dans ce bâtiment humide, dans cette hutte, et je priais. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que je dois parler avec toi. Est-ce que je peux t'écrire une lettre? Je ne sais pas comment est-ce que je dois prier. Comment est-ce que je dois le faire? Comment est-ce que je peux te le faire savoir, ce que j'ai dans le cœur? Et voilà. Vous savez, j'étais en train de mourir, en fait. Et on disait à mon père, tire maintenant le rideau car il va mourir. J'écoutais comment est-ce que l'infirmière a commencé à pleurer. Vous voyez? Et seulement 17 fois à la minute, l'appareil enregistrait les battements de cœur. Mais je vous dis, ensuite c'était presque terminé. Oh, peut-être que auparavant, quelque part, je l'ai reçu dit. Mais ensuite j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux parler avec toi? Je ne te connais pas. Je ne t'écoute pas. Je ne t'entends pas. C'est ainsi que j'ai mis mes mains ainsi ensemble. Et ensuite j'ai dit, bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, je voudrais parler avec toi, mais je ne t'entends pas me répondre. Et des hommes ont dit que tu réponds quand on prie. Mais moi, je ne reçois pas de réponse de toi. Je voudrais maintenant parler avec toi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, venir et parler avec moi? Non. Et rien n'était à entendre. Je savais que dans ma vie, j'avais jamais prié. Je ne savais pas ce que je devais faire dans cette hutte là-bas. Et ensuite, j'ai écrit, selon les en accord avec les Saintes Écritures, je comprends que tu es devenu homme et que tu comprends l'homme et que tu es ressuscité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y en a maintenant? Est-ce que tu m'as pardonné? Est-ce que tu parleras avec moi? Et j'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai plié mes mains comme ça. Est-ce que je l'ai bien fait? Je voudrais parler avec toi. Et je lui ai dit, je suis le plus mauvais garçon qui existe sur terre. Je me suis enfui de toi. Et pendant que je parlais encore, une lumière entra dans la pièce et a formé une croix. Et j'ai entendu, j'avais jamais entendu une telle langue dans ma vie. Mais et ensuite, j'ai regardé dans Jacques chapitre 5, verset 14, et j'ai vu la lumière. Et j'écoutais une langue étrangère. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends rien d'une vie chrétienne. Est-ce que c'était toi qui as parlé avec moi? Jacques 5, verset 15. Je n'ai pas compris ton langage. Est-ce que tu ne peux pas parler mon langage, ma langue? Car je ne comprends pas ta langue, Seigneur. Peut-être que tu allons nous comprendre comme ça. Mais si un jour tu reviens, que cela soit un signe en toi et moi, que tu m'as pardonné. Et c'était de nouveau là. Oh! Parler d'un jour de victoire. C'était le jour de victoire. Il l'a parlé de la même manière de nouveau. Oh, c'était un jour de victoire. Et ensuite, quand il a mis la main, l'épée dans ma main, alors il a été dit, combat pour recevoir la victoire. Oh, il y a eu beaucoup de victoires que nous avions eues déjà. Que nous avons déjà acquis. Et nous continuons encore à combattre. Et ce sera le grand jour de victoire quand le Fils de Dieu descendra, Dieu des cieux, reviendra. Et que les sépulcres s'ouvriront. Et que les morts en Christ ressusciteront. Vous avez sûrement entendu l'enregistrement que j'ai fait avec le témoignage, alors que j'ai été ravi dans les cieux et que dans la gloire et que j'ai vu là-bas les croyants. La Bible est ouverte devant moi. Je les ai vus là-bas comme je vous vois ici maintenant. Vous voyez, ce n'était pas seulement une vision, car une vision aussi. Je n'ai jamais vu aussi une vision manquer. Elle a toujours été accomplie parfaitement, comme cela a été dit dans la vision. Mais je vous dis, oh, vous chrétiens, restez attachés à la main de Dieu qui ne change pas. Allez de l'avant, ça sert à quelque chose de persévérer jusqu'à ce que Jésus revienne. Les trompettes retentiront, les morts en Christ ressusciteront. Priez et persévérez jusqu'à la fin. Je crois que c'était Billy Sunday qui faisait cette remarque. Et il parlait de quelqu'un qui avait commis quelque chose et qui était devenu coupable et qui a été traîné donc devant le jugement et qui a été jugé. Et il a été dit, sa vie doit lui être ôtée. Et ensuite, il a été dit, tu seras donc condamné de cette manière, ta vie sera ôtée de cette manière. Et ensuite, il a été apporté en prison jusqu'au jour de sa condamnation. Et des amis sont allés à ce juge. Ils lui ont dit, mais regarde, nous t'avons choisi et nous sommes venus du Texas, etc. Et comme autrefois les choses ont été pour moi, vous avez entendu parler de cela, peut-être que même dans les journaux vous l'avez lu, alors que Dieu m'avait utilisé pour faire grâce à quelqu'un qui était jugé à mort, condamné à mort, à faire en sorte qu'il soit délivré. Et alors c'était ainsi que la mère, un jour, s'est prosternée devant la porte et c'est-à-dire devant le gouverneur. Et elle est restée à son entrée et elle a dit ces paroles suivantes. Écoutez, c'est mon fils. S'il vous plaît, ne lui ôtez pas la vie. Accordez-lui la prison pour toute sa vie, mais n'ôtez pas sa vie. Qu'il puisse rester en prison pour toute sa vie, mais n'ôtez pas sa vie. Alors le gouverneur a compris et il a laissé annuler la condamnation à mort. Et il a été dit, et cela a été annoncé à ce jeune homme, Et alors, il y a quelqu'un qui est allé à ce jeune homme et qui lui a dit, « Je voudrais parler avec toi, jeune homme, s'il te plaît, accorde-moi toute ton attention. » Il a dit, « Non, sors, je ne veux pas entendre, je ne veux rien entendre ce que tu dis. Tais-toi. Est-ce que tu ne vois pas que je suis nerveux? Je ne veux plus rien entendre de ce que tu as à dire. » Alors, il a dit, « Mais écoute, je suis venu pour parler avec toi, et c'est-à-dire de manière sobre. » Et il est sorti. Il ne voulait rien entendre. Il a dû sortir. Et le surveillant, le gardien de prison qui a vu cela, a dit, « Écoute, tu étais un idiot, le plus grand des idiots. Est-ce que tu ne vois pas que tu étais le gouverneur lui-même qui était venu, tu ne sais pas qui était venu, c'était le gouverneur. Le plus grand personnage de cette ville, qui lui-même est descendu de son bureau, est venu jusqu'à dans ta cellule de prison. Et c'est lui qui a déjà fait en sorte que tu sois délivré. Et il avait avec lui, entre ses mains, une lettre pour ta délivrance de la condamnation. Et quand le masque de mort a été mis sur lui, alors il a dit, imaginez-vous, le gouverneur s'est tenu dans ma cellule. Il voulait me pardonner et je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas écouté. Et maintenant, dans quel état vous êtes? Celui qui peut vous pardonner est venu dans votre prison, dans votre cellule, dans laquelle vous vous tenez depuis longtemps déjà. Il est maintenant à côté de vous. Un jour, vous allez devoir constater, vous pensiez, ah, ça ce sont des gens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ça je vous dis, plus que le gouverneur aujourd'hui ici. Celui qui vous a apporté le pardon et la délivrance, il est ici. Il est juste pour vous faire sortir et votre pardon est sûr. Nous voulons maintenant courber les têtes.
Bietet auf eure eigene Weise und sagt, Herr,
si vraiment vous voulez avoir la victoire dans votre combat, est-ce que vous ne voulez pas vous abandonner, vous rendre et écouter le gouverneur? Votre pardon est déjà signé. Il veut vous faire sortir du péché, de l'incrédulité, de la maladie, vous faire sortir de toutes les choses dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Il peut le faire. Priez de votre propre manière. Et dites, Seigneur, même si tu voulais parler par le gouverneur ou bien par lui, ce jeune homme aurait dû ici accepter. Cela a été adressé avec lui. Ça dépendait de lui de s'adresser au gouverneur, de parler avec lui. Donc ça dépend de vous maintenant, de vous adresser au Seigneur dans la prière. Nous voulons prier. Père Céleste, nous te sommes tellement reconnaissants. Ô Seigneur, je suis coupable devant toi. Je ne peux pas payer mes péchés mes fautes pour le péché. J'étais né déjà dans cette cellule de prison. Je ne savais pas ce que c'était que la délivrance, que la liberté. Je suis né déjà dans une cellule. Mais je suis tellement heureux de ce qu'un jour, toi, tu viens dans ma cellule. Je l'ai reconnu. Tu es le seul qui pouvait me pardonner. Et j'ai accepté ta délivrance et expérimenté et reçu une victoire entière et totale. Tu as signé le pardon total et tu m'as envoyé de prison en prison pour aussi tous ceux qui sont dans la maladie ou bien dans des problèmes de couple, quoi que ce soit, tous ceux qui sont dans la colère, qui sont nerveux, qui ont des dépressions. Tu m'as envoyé de prison en prison et tu as dit, le gouverneur, et encore plus que le gouverneur est présent, est ici. Et tu les as appelés à sortir. Et encore aujourd'hui, ils sont ici. Que ce jour soit un jour de victoire. Un jour de victoire parfait où chacun reçoit la victoire et l'expérimente. Chaque personne malade soit guérie ici dans ce bâtiment. Que tous ceux qui sont rétrogrades, que maintenant ils puissent entendre la voix de Dieu avec le buisson ardent de la foi lié. Ô Seigneur, que ce buisson, que ce feu qui brûle de la foi, ce feu qui brûle de la foi et de l'espérance puisse entendre, puisse délivrer chacun et que chacun puisse entendre la voix de Dieu qui les appelle. Venez à moi, je vous délivre. Chaque enfant, si quelqu'un est ici présent qui ne te connaît pas personnellement en tant que sauveur et rédempteur, qu'il puisse maintenant t'accepter, parle avec chacun d'eux et qu'il puisse dire, je crois que Dieu existe et qu'il est venu pour me délivrer. Oh, qu'il puisse maintenant l'accepter. Accepte-le. Bénis le frère Hinz Axen et ce jeune homme ici et sa femme et les enfants. Bénis l'Église. Oh Dieu, nous sommes tellement reconnaissants pour eux. Reconnaissants de ce que ils ont un toit sur leur tête. Et tu es tellement bon avec eux. Nous te sommes reconnaissants pour eux. Qu'ils puissent et rester humble, petit et plein d'amour dans la présence de Dieu. Bénis les enfants qui sont venus rendre visite. S'ils n'ont pas encore reçu cette victoire totale, où ils peuvent dire à chaque parole de Dieu, Amen, et croire à chaque parole de Dieu, que leur foi ce matin soit édifiée et fortifiée d'une manière qu'ils puissent dire à chaque parole de Dieu, Amen. Sauve ceux qui sont perdus, guéris ceux qui sont malades. Glorifie-toi toi-même, ô Dieu fidèle. Nous ne sommes plus dans la peur. Et toutes les épreuves qui sont venues sur nous ont servi à notre bien. Et nous sommes arrivés parce que Dieu nous aime. Il nous les a accordés parce qu'il a sa confiance en nous. Il sait que nous avons de la foi et de l'amour et que nous l'aimons. Il sait que nous avons de la foi et que nous l'aimons. Toi, tu prendras soin de tout. Seigneur, peut-être que nous ne sommes pas encore allés, mais que tu puisses nous donner d'aller et de prononcer la parole. Et c'est ainsi que le jour de victoire viendra. Ce sera le plus grand jour de victoire. Reste avec nous jusqu'à ce que nous puissions nous revoir dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire la chose suivante avant de devoir partir. J'ai maintenant parlé une demi-heure à peu près et ça je voudrais encore le dire. Je me suis vraiment beaucoup réjoui d'être ici et d'avoir ce sentiment parmi vous. Ne vous éloignez jamais plus de cela, jamais de cela. Laissez ce feu que vous avez reçu en vous et permettez qu'il puisse brûler toujours plus. Je ne sais pas, frère Jackson, comment je dois l'exprimer, comme je suis reconnaissant de ce que ces personnes sont venues, ces gens sont venus, et que tu as ce groupe ici que tu conserves, que tu entretiens, que le Seigneur puisse te fortifier et soit avec toi. Et vous, personnes qui viennent pour écouter, que Dieu puisse vous accorder sa force et vous conserver, vous entretenir et être avec vous. Peut-être que maintenant vous allez être donc renvoyé par le frère Hank Jackson, c'est-à-dire que bon, la réunion sera conclue, que vous pourrez repartir à la maison. Nous avons parlé du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons sondé sur ces choses au lieu des titres fils et père, fils de l'esprit, etc. Mais s'il y a certains problèmes dans votre cœur concernant cela, nous sommes ici pour vous aider. Et je le connais et je l'ai rencontré et je me suis assis avec lui. Il a vraiment un esprit chrétien. C'est une personne agréable. Et Dieu va exaucer de telles prières. C'était une vieille personne dans le pays appelée Hayes. Et à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il était tellement humble, humble et très simple. Parfois même les gens pensaient que il n'était qu'un religieux fanatique. Mais quand quelqu'un était malade, alors il venait le chercher et allait vers lui. Ce vieux fanatique, comme il le disait, n'est-ce pas? Et alors il savait où ils avaient à aller. Il habitait là-bas. Il était un ami de mon père. Et vous savez, n'est-ce pas, dans notre histoire, il est écrit que George Washington n'aurait jamais menti. C'est ainsi que dans nos livres, cela est écrit. Mais cela n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes tous des menteurs. C'est seulement Dieu seul qui est véritable. Mais, vous voyez, nous disons seulement le bon côté des... nous parlons seulement des bons côtés des gens, des personnes. Mais Dieu, lui, il voit les deux côtés. De Lot, il est dit que son âme juste s'affligeait à cause du péché des hommes parmi lesquels il vivait. Mais de la même manière, la Bible dit que il avait eu une relation avec ses filles. Vous voyez? Et on peut se moquer de ça, ou bien alors, je ne sais pas, mais la Bible donne et parle toujours des deux côtés, pas seulement du bon côté. Elle redonne tout. Vous voyez, c'est ainsi que là-bas, dans cette région où cet homme habite, subitement, il est dit, ce vieil homme-là, le Weiss, il disait toujours, « Oh, que Dieu bénisse ta bien-aimée âme. » Et l'un lui apportait des tournesols, l'autre toutes sortes de fruits et de légumes. Autrefois, c'est ainsi que ils ont payé, n'est-ce pas, les prédicateurs. On leur envoyait des vivres et c'est ainsi qu'ils étaient conservés en vie. Et il a toujours de nouveau, après une réunion, dit, « Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse vos âmes et que Dieu puisse bénir vos champs et vos récoltes et vous conserver. » C'est ainsi qu'il a toujours exprimé les bénédictions. Et ensuite, il y avait un jeune homme qui a pris, n'est-ce pas, la selle de son cheval. Il savait que il allait pleuvoir. Et ensuite, il n'était, n'est-ce pas, venu à cette réunion, à ce culte, et il s'était mis à genoux prosterné devant l'autel. Et le Seigneur l'avait rencontré. Il avait rencontré le Seigneur. Il s'était prosterné devant la chair. Et vous savez, ensuite, il y avait quelqu'un qui a rien entendu de bien de ce vieux frère. Toujours des choses mal et des moqueries. Et ensuite, il y avait un jeune homme qui était en train de mourir. Et alors, Charlie, il a dit, Charlie, je ne veux pas mourir dans cet état. Oh, je vois maintenant, il vient vers moi. Et il me lie avec des chaînes, etc. 5 personnes voulaient le retenir. Mais il voyait déjà ce qui se passait, ce qui va aller se passer avec lui. Et il voulait même monter sur le plafond parce qu'il était en train de mourir sans Dieu. Et ensuite il a dit, Charlie, là il y a encore du whisky. Et va me le chercher s'il te plaît. Et ils l'ont retenu là-bas dans le lit. Et ils ont essayé de chasser le diable de lui. Et vous savez ce que le vieux père Keck a fait avant d'aller dans la gloire? Il avait à peu près 85 ans. Il n'y avait pas seulement des enfants, mais des petits-enfants, et des petits-enfants étaient là. Il avait seulement encore qu'une barbe blanche. Il avait que des cheveux gris et blancs. Et vous savez quoi? Il disait autrefois, vous pensez peut-être que mon vieux papa Eck va mourir ici. Non, il ne peut pas mourir. Il a reçu la vie éternelle. Vous, tous mes enfants, je vais maintenant seulement être pris de ce lieu. Et ensuite, il a béni chacun de l'adulte au plus petit, au plus jeune. Et ainsi, il a demandé à ses deux fils plus âgés et de le redresser un peu du lit. Et alors, il a dit, levez mes mains vers le ciel. Et ensuite, il a chanté, jour heureux, quand Jésus a lavé mes péchés. Et il m'a enseigné, il m'a appris à prier. Jour heureux. Et ensuite, il a été pris dans la gloire. Voilà la différence. Je suis tellement heureux. Vous avez une personne ici humble en qui vous pouvez avoir votre confiance. Que Dieu puisse faire des miracles parmi vous et être avec vous. S'il vous plaît aussi, faites quelque chose pour moi. Priez pour moi. Je ne suis pas toujours ici et parmi vous, mais vous recevez mes enregistrements de des réunions. Et je suis, n'est-ce pas, dans le grand champ d'égorgement, mais priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. Je mets ma confiance dans vos prières. Même quand parfois les choses deviennent difficiles, parfois là où il y a des sorciers, des maîtres, des magiciens, des milliers qui vous défient. Et vous allez là-bas. Vous devez savoir ce que vous faites. Car ils peuvent imiter tout ce que Dieu a, comme James et Jambres. Ils peuvent imiter tout ce que Dieu a. Ensuite, je pense à ce que ici. Alors, je penserais qu'ici, il y a un groupe de saints qui prient pour moi. Là-bas, dans le désert, là-bas, dans la région de Sinavesta, il y a une région de prière. Là-bas, de l'autre côté de la montagne, dans une hutte simple, une case sainte, simple, je suis accompagné de prières, de vos prières. Oh, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour moi. Amen. Bon, c'est bien. Est-ce que vous savez? Je souhaite que je pourrais rester ici pour repartir avec vous à la maison et manger avec vous. Et vous savez que vous êtes tous convaincus que chacun à la femme qui cuisine la mieux. Je voudrais bien venir dans vos maisons, mais je ne le peux pas. Ça, vous le comprenez tous, n'est-ce pas? Non, je ne le peux pas. C'est, n'est-ce pas, un effort pour moi. C'est difficile pour moi. Je suis seulement venu pour avoir communion avec vous. Et je voudrais de nouveau revenir. Que Dieu vous bénisse tous. Bon, le frère Isaac Stenz, quoi que tu fasses devant le Seigneur, ou bien alors de telles personnes qui n'ont pas encore entièrement, qui ne se sont pas entièrement encore données à Christ. Est-ce que vous ne voulez pas maintenant venir là où maintenant le frère Ixaxens et moi nous nous tenons là. Est-ce que vous ne voulez pas maintenant venir et aujourd'hui expérimenter et recevoir la pleine victoire? Si quelqu'un est rétrograde, a rétrogradé et est reparti dans le monde, et vous savez que vous avez perdu cette communion, comme cette femme qui hier soir était revenue, l'obscurité l'avait enveloppée et vous êtes lié, et elle était liée. Si vous n'avez pas la victoire que vous désirez, est-ce que vous ne voulez pas venir? La pleine victoire, que cela soit le jour de votre victoire, dans toutes les choses du monde, sur toutes les choses du monde. Vous dites, je suis passé de tant d'épreuves d'ici à là, déchiré de partout. Mais Dieu vous a fait confiance. Vous aurez pu peut-être être tombé, peut-être que vous êtes tombé, vous avez fait des erreurs. Mais vous allez vous relever comme un vrai soldat. Et vous allez saisir encore l'épée et continuer à combattre. Bon, si quelqu'un vient, alors que le frère Ixaxen puisse maintenant reprendre toute la réunion, continuer la réunion, reprendre. Excusez-moi, j'espère que je pourrai revenir parmi vous et que vous voulez prier pour moi. Pensez à cela. Une pleine et totale victoire sera manifestée si vous vous êtes dirigé clairement et ouvertement et véritablement selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra du ciel avec la voix et les trompettes. Et alors nous serons pris auprès de lui dans la gloire. Jusqu'à là, veillez et priez que Dieu vous bénisse tous. Amen. Oh.